Chapitre 12. Contenant des faits plus positifs, mais dérivant de la même source que ceux du chapitre précédent. Le lecteur sera charmé, je pense, de retourner avec moi vers Sophie. Elle passa désagréablement la nuit qui suivit le jour où nous l'avons quittée. Le sommeil la favorisa peu, et les songes encore moins. Dès le matin, Mrs. Honora, sa femme de chambre, en entrant chez elle, la trouva levée et habillée. Les personnes qui vivent à la campagne, à 2 ou 3 milles de distance, sont considérées comme proches voisins, et ce qui se passe dans une maison arrive à l'autre avec une incroyable célérité. Mrs. Honora savait donc tous les détails de l'histoire ignominieuse de Molly. Elle ne fut pas plutôt entrée dans l'appartement de sa maîtresse, qu'étant de sa nature d'un caractère très communicatif, elle commença à la rapporter en ces termes. « Mon Dieu, madame, que pensera madame ? Cette fille que madame vit dimanche dernier à l'église, et que madame croyait si jolie, quoique madame ne l'eût pas crue si jolie si elle l'avait vue de plus près, eh bien il est sûr qu'elle a été conduite devant le juge de paix parce qu'elle est grosse. Pour moi, elle m'a toujours paru une effrontée coquine. Et bien sûr, elle a déclaré que son enfant était du jeune monsieur Tom Jones. Et toute la paroisse dit que monsieur Allworthy est si en colère contre le jeune monsieur Jones qu'il ne veut plus le voir. Sûrement, on ne peut s'empêcher de plaindre le pauvre jeune homme, et cependant il ne mérite pas beaucoup de pitié pour s'être avili avec une telle créature. En vérité, c'est un gentilhomme si agréable que je serais bien fâché de le voir mettre à la porte. J'oserais jurer que la coquine a fait autant d'avance que lui, car elle a toujours été bien hardie. Et quand les filles font les avances, il ne faut pas si fort blâmer les jeunes gens, car ils ne font rien que de très naturel. À la vérité, il est au-dessous d'eux de se mêler avec de telles salopes, et ce qui leur arrive est bien fait. Cependant, on peut être sûr que la plus grande faute est du côté de ces méprisables coquines. Je souhaiterais de tout mon cœur qu'elles fussent toutes fouettées à la queue d'une charrette, car cela fait pitié qu'elles puissent perdre un jeune et joli homme, et personne ne peut nier que M. Jones ne soit un des plus beaux jeunes hommes que jamais. Elle allait continuer, quand Sophie, l'arrêtant avec un ton d'aigreur qu'elle n'avait jamais pris avec elle, lui dit « Qui vous a chargé, je vous prie, de venir m'impatienter avec tout ce bavardage ? Et que m'importe ce que fait M. Jones ? Allez, vous vous ressemblez toutes, et vous avez bien l'air d'être fâchée de ne pas être dans le cas de Molly. » « Moi, madame, répondit Mrs. Honora, je suis fâchée que madame ait une telle opinion de moi. Je suis sûre que personne ne peut m'accuser d'une telle chose. Tous les jeunes gens du monde peuvent aller au diable. Quoi, parce que j'ai dit qu'il était un joli homme ? Eh, mais un chacun le dit comme moi. Sûrement, je ne croyais pas qu'il y eût du mal à dire qu'un jeune homme était joli. Mais sûrement, cela ne m'arrivera plus. D'ailleurs, chacun a son goût. Une misérable... « Arrêtez ce torrent d'impertinence !» s'écria Sophie, « et voyez si mon père ne m'attend pas pour déjeuner. » Mrs. Honora sortit de la chambre avec précipitation, murmurant entre ses dents quelques mots qu'on ne put distinguer. Nous ne pouvons satisfaire la curiosité du lecteur en lui disant si Mrs. Honora méritait réellement le soupçon que sa maîtresse lui avait montré. Nous l'en consolerons en lui découvrant ce qui se passait dans l'âme de Sophie. Le lecteur voudrait bien se rappeler qu'une secrète affection pour Tom avait germé insensiblement dans le cœur de cette jeune personne, et que cette affection avait déjà pris racine, qu'elle ne s'en doutait pas encore. Quand elle commença à en apercevoir les symptômes, les sensations qu'elle en éprouva furent si douces et si agréables qu'elle ne put prendre sur elle de les repousser, ni même de les modérer. Elle finit par en venir au point de chérir une passion dont elle n'avait pas encore une seule fois considéré les conséquences. L'incident relatif à Molly lui ouvrit d'abord les yeux. Elle aperçut pour la première fois la faiblesse dont elle s'était rendue coupable. Le trouble de son cœur fut au comble. Cette dernière circonstance produisit sur elle l'effet d'un remède violent et la guérit pour le moment. La prodigieuse rapidité de l'opération fut telle que pendant l'absence de sa femme de chambre, qui rentra presque à l'instant même, tous les symptômes d'amour avaient disparu, au point que quand Miss Honora revint, Sophie était tout à fait rétablie et ne pensait plus à Tom qu'avec la plus parfaite indifférence. Les maladies de l'âme ressemblent presque en tout à celles du corps. Nous espérons donc que la faculté, pour laquelle nous avons un si profond respect, nous pardonnera la nécessité où nous nous sommes trouvés d'oser nous servir de plusieurs mots et même de plusieurs phrases qui lui appartiennent de droit, mais sans lesquelles nos descriptions auraient été très souvent inintelligibles. Il y a surtout une circonstance où les maladies de l'âme ont une plus exacte analogie avec celles du corps, c'est qu'elles sont sujettes aux rechutes. Rien n'est mieux démontré dans les maladies violentes de l'ambition et de l'avarice. J'ai vu l'ambition, quoique guérir la cour par de fréquentes traverses, seule médecine qui lui convienne, reparaître avec violence dans un débat pour obtenir la place du chef du grand jury aux assises. Et j'ai entendu parler d'un homme assez parfaitement guéri de l'avarice pour donner en un seul jour plusieurs pièces de 6 sous, qui se soulagea enfin sur son lit de mort, en faisant pour son enterrement un marché fort avantageux avec un entrepreneur de funérailles qui avait épousé sa fille unique. Quant à l'amour, que, sans nous conformer strictement à la philosophie des stoïciens, nous traiterons ici de maladie, ce penchant aux rechutes n'y est pas moins remarquable. C'est ce qui arriva à la pauvre Sophie, car dès la première fois qu'elle revit Tom Jones, tous les symptômes précédents reparurent, et à dater de cette époque, des accès de froid et de chaud s'emparèrent alternativement de son cœur. Sa situation était alors bien différente de ce qu'elle avait été. Cette passion, naguère si délicieuse, devint pour elle un poison déchirant. Elle y résista de toute sa force, et pour la soumettre et l'arracher de son sein, appela à son secours tous les arguments que put lui suggérer sa raison, qui était prodigieuse pour son âge. Ses efforts ne furent pas sans succès, et elle commença à espérer une parfaite guérison du temps et de l'absence. Elle résolut donc d'éviter Tom Jones autant qu'il lui serait possible, et pour y parvenir, elle conçut le projet d'aller chez sa tante, ne doutant pas qu'il ne lui fût facile d'obtenir le consentement de son père pour ce petit voyage. Mais la fortune, qui avait d'autres projets sur elle, arrêta cette démarche, en faisant naître un incident qui sera raconté dans le chapitre suivant. Chapitre 13. Terrible accident arrivé à Sophie. Conduite courageuse de Tom Jones, et conséquences plus terribles encore de cette conduite pour cette jeune personne. Courte digression en faveur des femmes. Chaque jour augmentait de plus en plus la tendresse véritablement passionnée que M. Weston avait pour sa fille, au point que ses chiens bien-aimés eux-mêmes lui cédèrent presque leur place dans ses affections. Mais comme il ne put prendre sur lui de les abandonner, il imagina très adroitement qu'il pourrait jouir de leur compagnie en même temps que de celle de sa fille, en invitant Sophie à monter à cheval et à chasser de temps en temps avec lui. Sophie, pour qui le moindre mot de son père était une loi, se rendit sur le champ à ses désirs, quoiqu'elle n'eût aucun plaisir à la chasse, exercice trop mâle et trop violent pour un tempérament aussi délicat que le sien. Elle avait d'ailleurs un autre motif, indépendant de celui de l'obéissance, pour accompagner le vieux gentilhomme. Elle espérait, jusqu'à un certain point, pouvoir calmer par sa présence l'impétuosité de son père et l'empêcher de s'exposer si fréquemment à se rompre le cou. La plus forte objection qu'elle se faisait à elle-même en cette circonstance était ce qui naguère eût été pour elle un attrait de plus, je veux dire l'occasion de se rencontrer souvent avec Tom Jones, qu'elle avait résolu d'éviter. Mais comme la saison de la chasse s'avançait, elle espérait qu'une courte absence chez sa tante la guérirait entièrement de sa malheureuse passion, et ne doutait pas un moment qu'elle ne fût en état de le revoir la saison suivante sans le moindre danger. Le second jour qu'elle chassa avec son père, comme elle revenait, et n'était plus qu'à peu de distance du château, son cheval, dont la fougueuse vivacité aurait eu besoin d'un meilleur cavalier, se mit à sauter et à se cabrer de telle manière qu'elle se trouva dans le péril le plus imminent. Tom Jones, qui n'était pas loin, s'en aperçut et galopa à son secours. Il se précipita de son cheval et saisit celui de Sophie par la bride. L'animal indomptable se dressa aussitôt sur les pieds de derrière et se débarrassa avec violence de son charmant fardeau, que Tom reçut entre ses bras. Sophie était tellement saisie de frayeur qu'elle fut hors d'état de répondre sur le champ à Tom Jones, très empressée de savoir si elle ne s'était fait aucun mal. Bientôt après, cependant, elle revint à elle, l'assura qu'elle n'était pas blessée et le remercia du soin qu'il avait pris de l'en garantir. Tom lui répondit « Si j'ai eu le bonheur de vous être utile, madame, j'en suis assez payé, et je vous promets que je vous aurai garanti de la plus légère égratignure. Dût-il m'en être arrivé un beaucoup plus grand mal que celui que j'ai souffert en cette occasion ?»« Quel mal ?» répliqua Sophie avec vivacité. « J'espère que vous n'êtes pas blessée. »« N'ayez point d'inquiétude, madame, » dit Tom. « Le ciel soit loué, vous avez couru un grand danger, mais vous en êtes échappée heureusement. Si je me suis cassé un bras, je considère cet accident comme une bagatelle, en le comparant à ce que j'ai craint pour vous. »« Votre bras cassé ? Au ciel !» s'écria Sophie. « J'espère que non. »« Je le crains, madame, mais je vous supplie de me permettre de m'occuper d'abord de vous. » « Ma main droite est encore à votre service, pour vous aider à traverser le champ voisin, d'où nous n'aurons plus qu'une petite promenade jusqu'au château. » Sophie, voyant le bras gauche de Tom pendant à son côté, tandis qu'il se servait de l'autre pour la conduire, ne douta pas plus longtemps de la cruelle vérité. Elle devint à l'instant plus pâle qu'elle ne l'avait été lorsqu'elle ne craignait que pour elle. Un tremblement général la saisit, au point que Tom Jones pouvait à peine la soutenir. Mais comme son cœur n'était pas moins agité, elle ne put s'empêcher de jeter sur Tom un regard si tendre qu'il disait assez clairement qu'elle éprouvait un sentiment plus fort que celui que la seule reconnaissance et la seule pitié peuvent exciter dans le cœur de la plus tendre des femmes. Monsieur Western, qui était à quelque distance quand cet accident arriva, s'était rapproché d'eux avec le reste de ses gens. Sophie les instruisit sur le champ du malheur arrivé à Tom Jones et les pria de prendre soin de lui. M. Weston, qui avait été excessivement alarmé en rencontrant le cheval de sa fille et qui était transporté de joie en la revoyant saine et sauve, s'écria « Je suis charmé qu'il ne soit rien arrivé de pis. Si Tom s'est cassé le bras, eh bien nous aurons un chirurgien pour le raccommoder. » En disant ces mots, il descendit de cheval et alla à pied jusqu'au château avec sa fille et Tom Jones. Un spectateur qui aurait ignoré l'aventure et les aurait rencontrés eût conclu, en voyant leurs divers maintiens, que Sophie seule méritait toute sa compassion, car Tom Jones exultait d'avoir probablement sauvé la vie de la jeune personne aux dépens d'un de ses bras. Et M. Weston, quoiqu'il ne fût pas insensible à l'accident arrivé à Jones, était cependant aussi charmé qu'on peut l'être de voir que sa fille avait heureusement échappé au danger. La générosité de Sophie attribua cette conduite de Jones à un grand fond de courage, qui fit une profonde impression sur son cœur. Car il est certain que cette qualité est le meilleur titre de recommandation que les hommes puissent avoir auprès des femmes. Ce qui provient, si nous en croyons l'opinion commune, de la timidité naturelle au sexe, qui est telle, dit M. Osborne, qu'une femme est la plus lâche de toutes les créatures que Dieu ait jamais formées. Opinion plus remarquable pour sa sévérité que pour sa justesse. Aristote, dans sa Politique, leur rend, je crois, plus de justice quand il dit « La modestie et le courage des hommes diffèrent de ces mêmes vertus dans les femmes. Car le courage qui convient à une femme serait lâcheté dans un homme, et la modestie qui convient à un homme serait audace dans une femme. » Il n'y a peut-être pas plus de vérité dans l'opinion de ceux qui attribuent le penchant des femmes pour les hommes braves à leur crainte. M. Bayle, dans son article d'Hélène, je crois, l'impute avec plus de probabilité à leur violent amour pour la gloire. Et pour soutenir la vérité de cette assertion, nous avons l'autorité de celui qui, de tous les hommes, a pénétré le plus avant dans les profondeurs de la nature humaine, et qui fait parler l'héroïne de son Odyssée, ce grand exemple de l'amour et de la fidélité conjugale, en des termes qui prouvent que la gloire de son mari était le seul motif de son amour pour lui. Quoi qu'il en soit, il est certain que cet accident fit une forte impression sur Sophie, et, après les plus grandes recherches, je penche à croire qu'en ce moment, la belle Sophie ne fit pas une moindre impression sur le cœur de Jones. Ce qu'il y a de vrai, c'est que depuis quelque temps, il commençait à sentir le pouvoir irrésistible de ses charmes. Chapitre 14. Arrivée du chirurgien, ses opérations, long dialogue entre Sophie et sa femme de chambre. À son arrivée au château, Sophie, qui avait eu bien de la peine à se traîner jusque-là, se laissa tomber sur une chaise. Mais avec de l'essence de corne de cerf et de l'eau, on l'empêcha de s'évanouir. Et elle était assez bien remise quand le chirurgien que l'on avait envoyé chercher pour Jones arriva. M. Weston, qui attribuait ses symptômes à la chute qu'elle avait faite, conseilla à sa fille de se faire saigner par précaution. Il fut secondé dans cette opinion par le chirurgien, qui donna tant de raisons pour la saigner et cita tant de circonstances où l'on s'était mal trouvé de l'avoir négligée, que M. Weston redoubla ses instances et finit par exiger absolument que sa fille fût saignée. Sophie obéit à son père, quoique ce fût contre son gré, car le danger de la peur lui paraissait, je crois, moins grand qu'à son père et au chirurgien. Elle étendit donc son beau bras, et le chirurgien se mit en devoir de la saigner. Tandis que les domestiques étaient occupés à fournir tout ce qui était nécessaire, le chirurgien, qui imputait aux craintes de Sophie l'éloignement qu'elle avait montré pour la saigner, voulut la rassurer en lui protestant qu'il n'y avait pas le moindre danger, que la saignée n'entraînait après elle aucun accident, si ce n'est par l'ignorance de ceux qui exercent la chirurgie sans la savoir, insinuant assez adroitement qu'il n'était pas de ce nombre. Sophie assura qu'elle n'avait pas la moindre crainte et ajouta « Lors même que vous m'ouvririez une artère, je vous promets de vous pardonner. » « Oui, toi !» s'écria M. Weston. « Mais non pas moi. Dieu me damne si je lui pardonne. S'il te fait le moindre mal, Dieu me damne si je ne lui tire pas tout le sang qu'il a dans les veines. » Le chirurgien consentit à la saigner à ses conditions, ce qu'il fit avec autant de dextérité et de promptitude qu'il l'avait annoncé. Car il ne lui tira que peu de sang, disant qu'il était beaucoup plus salutaire de recommencer. Dès que l'opération fut finie, Sophie se retira, ne voulant pas, et en effet cela n'était peut-être pas très décent, être présente à celle que l'on allait faire à Jones. Une de ses objections contre la saignée, quoiqu'elle ne l'eût pas énoncée, était le retard qu'elle devait occasionner au soulagement de Tom. Car M. Weston, quand il s'agissait de sa fille, ne pouvait s'occuper que d'elle, et quant à Jones, il représentait la patience assise sur un monument et souriante à la douleur. Il est vrai que quand il vit le sang jaillir du beau bras de Sophie, à peine pensait-il à ses souffrances. Le chirurgien, après avoir entièrement découvert le bras de Jones, commença à l'étendre et à l'examiner dans tous les sens, de telle manière que les douleurs qu'il lui causait lui firent faire plusieurs grimaces. Il s'en aperçut et lui dit « Vous m'étonnez beaucoup, monsieur. Qu'y a-t-il donc? Je suis sûr qu'il est impossible que je vous fasse aucun mal. » Puis, s'adressant au pauvre bras cassé, il commença un discours très long et très savant sur l'anatomie, dans lequel il démontra avec beaucoup d'exactitude les effets différents des fractures simples et des fractures complexes. Les différentes manières dont Tom Jones aurait pu se casser le bras furent discutées avec tous les commentaires convenables, en sorte qu'il demeura prouvé par le calcul combien il y en avait de plus ou de moins dangereuses que celles qui existaient dans le cas présent. Ayant enfin terminé sa savante harangue, dont l'auditoire, quoique très attentif et toujours dans l'admiration, ne tira pas beaucoup de profit, attendu que personne n'en avait compris un seul mot, il continua son opération, qu'il termina plus promptement qu'il ne l'avait commencé. Il fut ordonné à Jones de garder le lit. M. Weston exigea qu'il en acceptât un chez lui. Il fut condamné de plus à ne boire que de l'eau du gruau. Mrs. Honora avait été présente à toute cette opération. Dès qu'elle fut finie, sa maîtresse l'appela et lui demanda comment se portait M. Jones. Mrs. Honora se mit aussitôt à faire l'éloge de ce qu'elle appelait la magnanimité de sa conduite, et qui, disait-elle, était si charmante dans une si jolie créature. Elle mit encore plus de chaleur à louer la beauté de sa personne, sans oublier aucun détail, et notamment la blancheur de sa peau. Ce discours produisit sur Sophie un effet qui n'aurait peut-être pas échappé aux observations de la pénétrante femme de chambre, si, tandis qu'elle parlait, elle avait une seule fois regardé sa maîtresse en face. Mais comme une glace qui était posée très commodément vis-à-vis d'elle lui donnait occasion d'admirer ses propres traits, qu'elle aimait de préférence à tout autre, elle n'avait pas une seule fois détourné les yeux de cet aimable objet. Mrs. Honora était tellement préoccupée du sujet sur lequel elle exerçait sa langue et de l'objet qu'elle avait devant les yeux, qu'elle laissa à sa maîtresse le temps de revenir de sa confusion. Sophie, alors, lui dit en souriant, « Certainement, Mrs. Honora, vous êtes amoureuse de ce jeune homme. »« Moi, amoureuse, madame, » répondit-elle. « Sur mon honneur, madame, je vous assure, madame, sur mon âme, madame, je ne le suis pas. » »« Et quand vous le seriez, » lui dit sa maîtresse, « je ne vois pas de raison pour que vous puissiez en rougir, car c'est très certainement un joli garçon. » « Oui, madame, » répondit Mrs. Honora, « il est sûr que c'est le plus joli garçon que j'ai jamais vu depuis que je suis au monde. » »« Oh, rien n'est plus sûr. » »« Et comme dit madame, je ne sais pourquoi je rougirais de l'aimer, quoiqu'il soit au-dessus de moi. » Sûrement les gens de qualité sont de chair comme nous autres domestiques. D'ailleurs, quoique M. Allworthy ait fait un gentilhomme de M. Jones, il ne me vaut pas par la naissance, car malgré ma pauvreté, je suis la fille d'une honnête personne, et mon père et ma mère étaient mariés. Il y a des gens qui portent la tête bien haut et qui ne pourraient pas en dire autant. Très dame, je vous assure, quoiqu'il ait la peau blanche, et j'en conviens, la plus blanche que l'on ait jamais vue, je suis chrétienne comme lui, et personne ne peut dire que je sois illégitime. Mon père était dans le clergé, et aurait été bien fâché, je crois, s'il avait pu penser que quelqu'un de sa famille eût pris les restes d'une Molly Seagrim. Sophie n'aurait pas laissé si longtemps sa femme de chambre continuer sur ce ton, si elle avait eu assez de force pour arrêter sa langue, ce qui n'était pas une tâche très facile, comme le lecteur peut en juger. Car il y avait certainement dans ce discours quelques passages qui étaient loin de lui être agréables. Cependant, elle arrêta ce torrent qui n'annonçait pas devoir finir si tôt. « Je m'étonne, lui dit-elle, de l'insolence avec laquelle vous osez parler d'un des amis de mon père. Quant à la fille en question, je vous défends de jamais prononcer son nom devant moi. Et à l'égard de la naissance de ce jeune homme, ceux qui n'ont rien à dire de pis contre lui peuvent se taire sur ce chapitre, et je vous ordonne de n'en plus parler. « Je suis fâché d'avoir offensé madame, » reprit Mrs. Honora. « J'assure, madame, que je hais Molly Seagrim autant que madame peut la haïr. Et quant à mal parler de M. Jones, je peux prendre tous les domestiques de la maison à témoin que toutes les fois qu'on a parlé de bâtard, j'ai toujours pris son parti. Car, dis-je aux domestiques, qui de vous ne voudrait pas être bâtard s'il pouvait devenir gentilhomme ? Et dis-je, je vous assure qu'il est très agréable gentilhomme, et qu'il a les mains les plus blanches du monde, car il est certain qu'il les a telles que je dis. Et de plus, un des meilleurs caractères, un des meilleurs cœurs du monde. Et dis-je, tous les domestiques et tous les voisins autour de nous l'aiment beaucoup, et sûrement je pourrais dire quelque chose à madame, mais c'est que je crains qu'elle ne s'en offense. Que pourriez-vous me dire, Honora ? Répliqua Sophie. « Oh, madame, sûrement, il n'avait aucune intention. C'est pourquoi je voudrais que madame ne s'offensât point. »« Dites-le-moi, » dit Sophie en insistant, « je veux le savoir tout à l'heure. » »« Eh bien, madame, » reprit Mrs. Honora, « un jour de la semaine dernière, il vint dans la chambre où j'étais à travailler. Le manchon de madame était sur une chaise, ce même manchon que madame me donna hier, et je vous assure qu'il mit ses mains dedans. « Laissez cela, monsieur Jones, lui dis-je. « Vous gâterez le manchon de madame. » Mais il laissa toujours ses mains dedans. Et puis il le baisa. « Oh, je vous assure, je n'ai jamais vu donner un tel baiser de ma vie. » « Il ignorait, je suppose, que ce manchon m'avait appartenu, » répliqua Sophie. « Madame va entendre, » continua Mrs. Honora. Il le baisa encore, et puis encore. Et il dit que c'était le plus joli manchon du monde. « Mais monsieur, lui dis-je, « vous l'avez vu 100 fois ?»« Oui, Mrs. Honora, » s'écria-t-il. « Mais peut-on, en la présence de votre maîtresse, rien voir de plus beau qu'elle-même ? » ?»« Mais ce n'est pas là tout. et j'espère que madame ne sera pas offensée, car sûrement il n'avait aucune intention. Un jour que madame jouait du clavecin devant mon maître, monsieur Jones se tenait dans la pièce à côté du salon de musique, et il me semblait triste. « Hélas, lui dis-je, monsieur Jones, à quoi pensez-vous ? Je voudrais bien savoir à quoi vous pensez. » « Hé, impertinente, me répondit-il en s'éveillant comme d'un songe, à quoi puis-je penser quand votre divine maîtresse joue du clavecin ? » Et puis, me serrant la main, « Oh, Mrs. Honora, me dit-il, qu'il sera heureux, celui !» Et il soupira. Sur ma parole, son haleine est aussi douce qu'un bouquet de fleurs. Mais il n'y entendait aucun mal. Ainsi, j'espère que madame n'en dira pas un mot, car il m'a donné une demi-couronne pour n'en pas parler. Et il me l'a fait jurer sur un livre. À la vérité, je crois que ce n'était pas la Bible. Jusqu'à ce qu'on ait découvert une couleur d'un plus beau rouge que le vermillon, je ne dirai rien du teint de Sophie en cette occasion. « Honora, dit-elle, si vous ne parlez plus de cela, ni à aucune autre personne, quelconque, je ne vous trahirai pas. Je veux dire que je ne serai pas fâché contre vous. Mais je crains votre langue. » « Dites-moi, me promettez-vous de vous taire dorénavant ?»« Ah, madame, répondit-elle, bien sûrement. J'aimerais mieux me couper la langue que d'offenser madame. Non, sûrement, je ne dirai rien qui puisse déplaire à madame. »« Eh bien, dit Sophie, je ne veux plus que vous parliez de tout ceci. Cela pourrait venir aux oreilles de mon père, qui serait très fâché contre M. Jones, quoique je pense bien réellement que, comme vous dites, il n'avait aucune intention. » Je serais moi-même très fâché, si je pouvais imaginer. « Oh non, madame, dit Honora, je vous proteste que je crois qu'il n'avait aucune intention. Je crois même qu'il parlait sans savoir ce qu'il disait, et même il m'a dit qu'il croyait être seul quand il a proféré ces paroles. « Ah, monsieur, lui dis-je, je crois ce que vous me dites. « Oh, me dit-il, Honora, mais je demande pardon à madame, car je m'arracherai la langue plutôt que d'offenser madame. » « Continuez, dit Sophie. Vous pouvez me dire ce que vous n'avez pas encore dit. »« Oui, Honora, dit-il, c'était quelque temps après qu'il m'eût donné cette demi-couronne dont j'ai parlé à madame. Je ne suis ni assez fat, ni assez vil pour la considérer autrement que comme une divinité. Je la respecterai, je l'adorerai jusqu'à mon dernier soupir. Je vous jure, madame, que c'est là tout ce dont je me souviens. » J'ai été moi-même en colère contre lui jusqu'à ce que j'aie découvert qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. « Je vois, Honora, dit Sophie, que vous avez une véritable affection pour moi. J'étais de mauvaise humeur l'autre jour lorsque je vous ai donné votre congé. Si vous voulez rester, vous le pouvez. »« Sûrement, madame, répondit Honora, je ne voudrais jamais quitter madame. Sûrement j'ai cru que je perdrais les yeux à force de pleurer quand vous m'avez eu donné mon congé. Ce serait une grande ingratitude à moi de vouloir quitter madame. Je ne retrouverai pas une si bonne place. Je vous assure que je vivrai et mourrai avec madame. Car, comme disait le pauvre monsieur Jones, heureux est celui... » La cloche du dîner interrompit cette conversation, qui produisit un tel effet sur Sophie qu'elle eut plus d'obligation à la saigner qu'elle ne l'avait cru d'abord. Quant à l'éclat présent de son cœur, je suivrai le conseil d'Horace, en n'essayant pas de le décrire, dans la crainte de n'y pas réussir. Le plus grand nombre de mes lecteurs se le figureront aisément, et le petit nombre de ceux qui en seront incapables ne pourraient pas bien juger la peinture que j'en ferai, et la croiraient d'autant moins vraie qu'elle serait plus naturelle. Fin du livre 4e.